faut, sire, c'est trouver le passage.
Et où est-il ? Ce passage ? Ce célèbre passage que personne n'a vu ?
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, on débute une nouvelle série, Le Voyage de Magellan, succès ou échec ? À écouter du lundi au vendredi à 14h04, à podcaster, soit chronique après chronique, soit dans la totalité de la série, qui est aussi diffusée le dimanche soir à 21h. Le matin du 10 août 1519, il y a foule à Séville sur les quais du Puerto de las Mueles pour assister au départ de la flotte de Magellan. Certains pleurent, d'autres se signent et prient, car combien seront-ils à revenir ? Tout le monde le sait, cette expédition sera longue et périlleuse. 5 bateaux ont été armés, des caraques, portant toutes le pavillon de Charles Ier, roi d'Espagne, la Trinidad, le navire amiral commandé par Magellan, le San Antonio, la Concepción, le Santiago et la Victoria. Des navires entre 20 et 30 mètres de long, qui aujourd'hui nous sembleraient minuscules. À leur bord, des marins et des soldats venus de presque toute l'Europe, espagnols, mais aussi portugais, grecs, allemands, français. Un équipage cosmopolite rassemblé par l'appât du gain et la promesse de gloire. Parmi eux se trouve un jeune noble vénitien.
Votre nom ?
Antoine de Pigafetta, chevalier de Vicence.
Avez-vous déjà navigué ?
Non, jamais. Permettez-moi, capitaine général, de vous remettre ce mot de sa sainteté le pape.
Je recommande à votre bienveillante attention le chevalier Antonio de Pigafetta. Oui, que savez-vous faire ?
Écrire.
Enrique !
Seigneur !
Occupe-toi de ce jeune chevalier, il vient avec nous.
Antonio Pigafetta, un des rares membres de l'équipage qui auront la chance de revenir à Séville en 1522. Pendant tout le voyage, Pigafetta tiendra un journal de bord, un témoignage précieux qui est parvenu jusqu'à nous. Les cales des 5 navires sont pleines à craquer. D'abord de vivres, pour nourrir tout ce monde, et tenir en mer en principe pendant 2 ans. Mais aussi des objets de pacotille qui serviront pour le troc.
2000 quintaux de biscuits.
47 quintaux d'huile.
57 quintaux de cochon séché.
1 tonne de pois chiches, haricots et lentilles.
250 chapelets d'ail.
500 muites, 20 kérès.
7 vaches et 2 cochons.
16 tonnes de figues.
12 quintaux d'amandes.
Du sel, de la moutarde.
Des remèdes, des onguents, de l'eau distillée.
20 000 petites cloches de 3 espèces.
500 livres de verroterie.
9 000 bracelets de laiton et de cuir. 1000 miroirs.
Le fil de l'histoire. Stéphanie Duncan.
Arrive l'heure de quitter Séville. Au son des cloches et sous les acclamations des Sévillans, les 5 navires larguent lentement les amarres et entament leur descente du Guadalquivir vers la mer. Arrivés à l'embouchure du fleuve, ce n'est que 6 semaines plus tard, le 20 septembre 1519, une fois les vents favorables, que la flotte de Magellan hisse les voiles vers le large. Cette fois, c'est le grand départ, le vrai, à travers l'océan Atlantique. Ce voyage se révélera un des plus grands exploits maritimes de tous les temps. Explorant des routes jamais empruntées jusqu'alors, de nouvelles terres, un nouvel océan, rencontrant des peuples inconnus et passant par les pires épreuves, maladies, tempêtes, batailles, mutineries, exécutions. Ce départ est un véritable saut dans l'inconnu pour les 237 hommes qui composent l'équipage. D'autant que seul Magellan et ses pilotes connaissent la route et le but de l'expédition. Mais ce but, quel est-il ? Et pourquoi le garde-t-il secret ? Pour nous, Magellan est un véritable héros. Mais pour ses contemporains, qu'ils soient portugais ou espagnols, son voyage fut-il une réussite ou un échec ? Toutes ces questions, on se les pose cette semaine avec vous, Michel Chandaigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éditeur, spécialiste des grands voyages maritimes et auteur des ouvrages de référence sur Magellan. Michel Chandaigne, pour bien comprendre l'importance de ce que sera ce voyage de Magellan, pouvez-vous nous rappeler quel est côté européen, en tout cas l'état des connaissances sur le monde, la cartographie, les routes maritimes en ce tout début du XVIe siècle ? Qu'est-ce que l'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas ?
On sait beaucoup de choses. D'abord, contrairement aux idées reçues, on savait parfaitement que la Terre était ronde. On connaissait l'existence du Pacifique depuis 1513. Et depuis le voyage des Portugais en Extrême-Orient, 1512, on avait une très bonne idée de la dimension du Pacifique. Et quand Magellan a pris la mer, eh bien, dans son mémoire et dans la carte qu'il présente, on voit que déjà, le Pacifique est dans ses dimensions quasi actuelles, à très peu de choses près. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le Pacifique serait vide pour lui. Il ne rencontre aucune île, aucune escale. Alors, la question, c'était aussi, est-ce qu'il y a un passage au sud de l'Amérique ? En gros, l'Amérique était connue jusqu'au Rio de la Plata. Il y avait des rumeurs, des bruits. On imaginait qu'il y avait un passage, comme en Afrique, il y a le Cap de Bonne-Espérance. Mais on ne savait pas si l'Atlantique et l'océan Indien étaient une seule mer, fermée. C'est ce qu'a prouvé le voyage de Magellan. C'est vraiment qu'il y avait un passage au sud de l'Amérique, et il l'a découvert, donc c'est le détroit de Magellan, et qu'il n'y avait qu'une seule mer, et que toutes les mers communiquaient d'un océan à l'autre.
Il y a une chose importante à rappeler, Michel Chandaigne, il me semble, c'est le traité de Tordesillas, en 1494, qui coupe, un petit peu de manière très arbitraire même, on peut le dire, le monde en deux, les terres qui sont découvertes par les Portugais et les terres découvertes par les Espagnols.
Oui, alors c'est pas tout à fait arbitraire, parce que les Portugais, en 1488, découvrent la route des Indes en doublant le cap de Bonne-Espérance. Et bon, Vasco de Gama réalisera ce voyage aux Indes 10 ans plus tard. Et Colomb découvre des terres. Tout le monde est persuadé qu'on est dans les parages de la Chine. Et qu'il est persuadé que Haïti, c'est Cipangou, c'est le Japon. Et cette illusion va durer un certain temps. Donc le pape, qui est espagnol, a peur que les puissances ibériques se battent en Asie pour la possession des contrées. Des royaumes et leur demande de s'entendre. Alors, il propose de couper le globe en deux verticalement avec une ligne au milieu de l'océan. L'océan Atlantique. Voilà, à 100 lieues à l'ouest des îles du Cap-Vert. Et là, les Portugais refusent l'intercession du pape. Ils vont discuter avec les Espagnols et ils fixent ce méridien à 370 lieues, quoi, à l'ouest des îles du Cap-Vert. Et il se trouve que ça va passer par le Brésil. Alors, est-ce que les Portugais connaissait en 1494 le Brésil, il y a une discussion, on peut le supposer, mais il n'y a aucune preuve. Tout ce qui est à l'est de cette ligne appartient aux Portugais, c'est le domaine exclusif des Portugais.
Dont fait partie l'Afrique.
L'Afrique, bien sûr, et tout ce qui est à l'ouest va être le domaine espagnol. Il faut bien penser qu'à l'époque, les Portugais et les Espagnols pensent se partager l'Asie. Donc, en gros, les Espagnols pensent avoir gagné la Chine et l'Asie jusqu'à l'Inde, et puis les Portugais, qu'ils auront l'Afrique jusqu'à l'Inde. Mais, justement, le voyage de 1512 va tout changer et va faire apparaître le Pacifique. Et soudainement, les Espagnols se retrouvent avec juste une partie de l'Amérique et un océan vide.
Alors, qui est ce Fernand de Magellan et quelle est son idée ? D'abord, c'est un Portugais qui va embarquer avec le roi d'Espagne. C'est assez curieux.
Il est né à Porto, il est engagé sur des flottes portugaises, il est de la petite noblesse, et il va se battre en Inde et naviguer de 1505 à 1512. Et il va revenir à Lisbonne et se battre au Maroc en 1513. Sa carrière militaire va être bridée au Portugal, il ne va pas pouvoir repartir en Inde, et ça c'était son rêve, parce qu'il avait son grand ami, Francisco Serrão, qui était arrivé jusqu'aux Moluques, les îles aux épices, et qui lui écrivait des lettres pour qu'il le rejoigne. Et Magellan voulait retrouver son ami, et il espérait le faire sur les bateaux portugais. Mais voyant que les bateaux portugais ne le prenaient pas, il ne serait pas engagé, il a décidé de proposer au roi d'Espagne un projet qui allait permettre de rejoindre son ami Serrão, mais par l'ouest, dans la partie espagnole du monde. À vrai dire, le voyage de Magellan est motivé d'abord par une histoire d'amitié.
Ah d'accord, je pensais que c'était pour les épices des îles Moluques.
C'est secondaire. C'est-à-dire, si les Portugais l'avaient rembauché sur les flottes, ils auraient rejoint Serrão et ils auraient passé des jours heureux avec leur famille là-bas. Non, pour vendre le projet au roi d'Espagne, il faut l'appât du gain. Donc, comme les îles Moluques, c'est les seules îles au monde où sont produites où est produite le girofle.
Le clou de girofle. Qui coûte extrêmement cher.
Voilà, l'idée de Magellan, c'est que les Moluques sont dans la partie espagnole du monde et il lui vend le projet en lui faisant miroiter un bénéfice de lucre. Les épices sont venues secondairement. Il n'y aurait pas eu son ami Serrão aux Moluques, il aurait eu un autre projet.
Et donc, il propose son idée au roi Charles Ier d'Espagne, qui lui donne finalement son accord le 22 mars 1518. Le contrat définitif est conclu, mais les Portugais ne sont pas contents.
Les Portugais, depuis 1512, 1513, capte, en gros, le commerce à la fois des girofles et de la noix muscade. Donc l'idée qu'il y ait un projet concurrent espagnol qui leur les dépouille des Moluques, bien sûr, le roi est furieux et va mener une campagne contre Magellan. Mais faut bien penser que les Moluques, on ne sait pas très bien dans quelle partie du monde elles sont. Donc les Portugais y ont accès, mais en effet, elles sont peut-être dans la partie espagnole, et c'est ça qui déplie aux Portugais.
Ça que veut voir Magellan, justement.
Ben, Magellan parie sur le fait que les Moluques sont dans cette demi-hémisphère espagnole.
Mais ce que Magellan ne pouvait pas savoir, c'est qu'il allait aussi être l'objet d'un véritable complot de la part de ses officiers espagnols. Merci Michel Chandaigne, on poursuit cette discussion dans le prochain épisode. Nous embarquerons avec Magellan dans sa longue traversée en direction du Brésil et plus au sud à la recherche d'un passage vers le Pacifique. Un voyage qui sera perturbé par un début de mutinerie.